Pour la deuxième semaine consécutive, l'évangile de Marc raconte des scènes d'exorcisme et de guérison. Aperçu des attractions à venir, l'évangile de la semaine prochaine décrira également une guérison. Et, noté de l'interruption du carême, nous entendrions encore pendant de nombreuses semaines des histoires de guérison tirées de l'évangile de Marc. Maintenant, la répétition produit un effet curieux car nous sommes obligés de réfléchir plus profondément au ministère de guérison du Seigneur. D'un point de vue très pratique, la série d'histoires semble presque inutile. Si vous étiez poussé par l'Esprit-Saint à composer un évangile, un résumé des faits essentiel concernant le Fils unique de Dieu incarné dans la chair humaine, prendriez-vous le temps de raconter près de 20 histoires de guérison, dont beaucoup couvrent un territoire similaire? N'en couperiez-vous pas quelques-unes pour y inclure certains contenus plus exaltés de Jean ou des enseignements clairs de Matthieu? D'un point de vue plus philosophique, nous craignons que la répétition trahisse une objection plus importante. Pourquoi y a-t-il tant de gens à guérir? Si le Seigneur avait l'intention de sauver toutes ces personnes, soit directement, soit par les ministères de sa grâce donnée dans l'Église, pourquoi permettre que la difficulté initiale s'abatte? Il est vrai que guérir est bien, mais pourquoi la maladie et la possession en premier lieu? L'Église anticipe cette question et choisit donc des lectures complémentaires pour nous aider à interpréter l'intention du Seigneur dans cette séquence. Or, si la deuxième lecture ne reflète généralement pas le contenu des autres textes, la première lecture est généralement choisie pour éclairer le contenu de l'Évangile. Alors, portons nos questions sur le livre de Job, le plus réconfortant des livres de la sagesse. Ce que nous entendons dans la première lecture, c'est la lamentation de l'homme frappé. La vie de l'homme sur terre n'est-elle pas une corvée? Ses jours ne sont-ils pas ceux des mercenaires? On m'a donc assigné des mois de misère et des nuits troublées m'ont été attribuées. Je ne rêverai pas le bonheur. Excellent. Rappelez-vous que dans le premier chapitre de Job, l'homonyme de livre perd presque tout. Seule sa vie est épargnée. Les amis de Job arrivent peu après et tentent de l'aider à comprendre la source de son malheur. Ils soupçonnent tout que Job a secrètement enfreint la loi de Dieu et qu'il doit se repentir. Mais Job refuse, à juste titre, de faire droit à leurs arguments. Il n'est pas conscient d'une faute qui mérite une si grande misère et dans un sens, il a raison dans ses jugements. L'auteur raconte, « En tout cela, Job n'a pas péché et n'a rien dit d'irrespectueux. Ce n'est pas aussi simple que de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes et de mauvaises choses aux mauvaises personnes. Mais alors, comment pouvons-nous en rendre compte? Quel est le but du Seigneur en permettant au mal de s'abattre et en nous en délivrant ensuite? » Pour passons ici à la conclusion du livre de Job. À la fin, Dieu répond, mais d'une manière à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Tout au long de l'histoire, tous les hommes, et Job en particulier, ont posé des questions à Dieu. Un poète plus banal aurait fait en sorte que Dieu réponde aux questions. Mais par une touche vraiment inspirée, quand Dieu entre, c'est pour poser davantage de questions. Il répond aux doutes de l'homme par un scepticisme encore plus grand. et le refus de Dieu d'expliquer son dessein est lui-même un indice brûlant de profondeur. Les énigmes de Dieu sont plus satisfaisantes que les solutions de l'homme. Dieu dit en effet que s'il y a une chose vraie au sujet du monde, en ce qui concerne les hommes, c'est qu'elle ne peut être expliquée. Il insiste sur l'inexplicabilité de toute chose. Or, si l'on s'en tenait là, la perspective serait interdictive. Mais, par la grâce de Dieu, notre perplexité peut se transformer en acceptation et en adoration. Devant le trône de Dieu Tout-Puissant, nous pouvons apprendre à faire en sorte que notre vie adopte le schéma de cette question brûlante. Qui es-tu, Seigneur, pour permettre que cela arrive? Seigneur, je crois. Aide mon incrédulité. Dans la foi, nous devons nous contenter d'attendre, d'endurer et d'accepter. À notre tour, nous découvrirons le Seigneur qui nous accompagne dans l'épreuve et qui sanctifie notre souffrance. Job reçoit la révélation de Dieu dans la nuée de l'orage. Mais nous qui vivons dans l'âge de l'incarnation, nous recevons Jésus-Christ. Et c'est en cela que commence la seule solution satisfaisante. Les maladies et les possessions que nous rencontrons dans l'évangile de Marc ne sont pas des simples afflictions. Elles deviennent dans le dialogue avec le Seigneur un lieu privilégié de rencontre. Ils sont le lieu où chaque individu affligé rencontre Jésus-Christ et parvient à la connaissance de sa personne. Comme l'a écrit Saint Jean-Paul II dans Salvifici Doloris, le Christ ne répond pas directement et il ne répond pas dans l'abstrait à ce questionnement humain sur le sens de la souffrance. L'homme entend de la réponse salvatrice du Christ alors qu'il devient lui-même progressivement en participant aux souffrances du Christ. Pour nous qui travaillons encore dans cette vallée de larmes, la réponse se présente sous une forme inattendue. Le Christ n'offre aucun compte rendu entièrement satisfaisant ou philosophiquement convaincant de notre douleur. Au contraire, il remplit sa coupe de nos douleurs et la boit jusqu'à la lie. Ainsi, bien que nos questions défient les réponses faciles, nous ne devons pas avoir peur, car en Christ, nous gagnons quelque chose de plus que la preuve rationnelle. Nous l'obtenons, et cela seul suffit.